Bonjour Lou.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau 10-10, spécial 80 ans de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Toute la semaine, les 10-10 sont destinés à des intervenants liés à l'UDAF.
Au 80 ans de la sécurité sociale.
Oui, c'est vrai. Merci Jean. Donc hier, Jean et Maria échangeaient avec le président de l'UDAF et aujourd'hui, dirigeons-nous à la MAFPH, le mouvement des associations familiales protestantes de l'Hérault. Nous sommes avec une invitée, Guylaine Dubois, qui est sa présidente. Bonjour Guylaine.
Bonjour Lou, bonjour Jean. Guylaine.
Commençons tout d'abord par une petite présentation de la MAFPH, s'il vous plaît.
Alors donc la MAFPH, ce nom barbare, ouais. Sigle, le mouvement des associations familiales protestantes de l'Hérault, en fait c'est une union d'associations, comme son nom l'indique, familiales protestantes de l'Hérault, qui sont au nombre de quatre. Il y a l'association familiale protestante de Montpellier, l'association familiale protestante de Sète, et l'association familiale La Concorde, qui fait partie d'une autre église à Montpellier, et l'association Siloé, qui elle aussi fait partie de... pas vraiment fait partie d'une église, mais rattachée à un mouvement d'église évangélique. Donc c'est un peu deux associations qui dépendent d'églises réformées, on va dire, comme on disait autrefois, protestantes unies, et deux associations évangéliques. Et puis on a l'ambition d'aller en chercher une autre association, qui est à Pézenas, mais les démarches n'ont pas encore été faites.
Le nom, c'est à Pézenas ?
L'association s'appelle Ensemble.
Ok.
Et je me suis rendu compte, en préparant l'exposition sur l'UDAF, qu'elle faisait partie de l'UDAF. Et donc, pourquoi ne fait-elle pas partie du mouvement des associations familiales protestantes de l'Hérault ? En tant que présidente, ça va être mon travail.
Ok, donc vous êtes quatre associations en tout.
Exactement.
Bientôt cinq.
Je l'espère.
Espérons. Et donc, comment vous vous êtes réunis tous ensemble ?
Alors, le fonctionnement de l'UDAF, donc l'Union départementale des associations familiales, est très complexe hein, comme organisation. Vous avez dû entendre son président Jean-Jacques Fosset hier.
C'est aussi une union d'associations. Donc, en fait, c'est vraiment une cascade de... C'est des associations qui se regroupent entre elles, puis qui se regroupent au sein encore d'une union.
Voilà.
Donc, c'est vrai que ça apparaît un peu nébuleux.
Exactement. Tout à fait. Ça l'est encore pour moi un peu. Mais l'idée, c'est de se réunir à quatre associations pour créer un mouvement, comment dire, protestant, qui apporte plus de voix. Si on était uniquement, on peut être chacune d'entre nous, mais on a plus de force au niveau des votes, au niveau de la représentation, au niveau de l'organisation nationale de l'UDAF.
Ok, mais concrètement, c'est-à-dire organisation nationale, comment ça vous avez plus de poids ?
Alors, pour des décisions de l'Union départementale des associations familiales, il y a des votes. Il y a des votes. Et ces votes, ils sont portés par les associations présentes. Le fait qu'on soit, nous, réunis, permet de comptabiliser. Alors, il y a une comptabilité des voix, je ne peux pas l'expliquer là. Permet de comptabiliser, de faire poids dans la décision.
Jean.
Et alors, au-delà de cet aspect qui est un peu, j'allais dire, politique, au sens rapport de force, dans le bon sens d'ailleurs, plutôt au sein de votre association, là, moi, que j'appelle MAFPH, parce que j'ai du mal à tout prononcer.
Bon, moyen. Voilà, exactement.
Les quatre associations, elles font des choses entre elles aussi, ou elles se retrouvent juste au sein de la MAFPH, juste pour cette histoire de peser.
Oui.
Parce qu'on se dit, bon, quatre territoires, Sète, Montpellier, bon, peut-être Pézenas demain, et puis les deux autres associations, là, c'est, il y a peut-être des synergies, non? Il y a des échanges?
Absolument. Alors, jusqu'à l'exposition qui est exposée là au Carrousel.
On rappelle,
il y a
une exposition d'une semaine dans les locaux du Carrousel où on a effectivement l'histoire de l'UDAF racontée sur une série de panneaux dans le hall que l'on vous invite à venir regarder. C'est au 9 cours Gambetta, rappelons-le.
Alors cette exposition, ça a été vraiment le premier travail que nous avons pu élaborer. Ça s'est passé comme ça. Jusqu'alors, c'était simplement une structure, comme on vient de décrire avec vous.
Administrative, un peu.
Administrative. Et là, cette exposition, ça a été un travail collaboratif, auquel on a associé d'ailleurs le Carrousel. Travail collaboratif mené par Jean-Luc Nègre, qui était jusqu'à il y a 2 ans, je crois, directeur général de gamme. Donc, c'est sous son impulsion qu'on s'est dit, il va falloir faire quelque chose ensemble. Et ça commence par cette exposition du DAF. Et on a maintenant, du coup, ça...
Ça vous a donné des idées pour faire autre chose ?
Exactement. Donc voilà, c'est... c'est ça. Alors, des idées voilà, qui ont émergé après ce travail collaboratif.
Alors, je continue dans le même fil. Aujourd'hui, le monde associatif en général est quand même soumis à de multiples pressions. On voit bien que les financements sont quand même toujours un peu revus à la baisse les uns et les autres. On parle beaucoup de mutualisation. Donc, est-ce qu'effectivement, dans les projets que vous pourriez avoir, il y a des choses que vous pouvez mutualiser déjà au sein de votre association MAFPH, donc qui est déjà un chapeau, mais peut-être avec les autres associations du monde protestant ?
Alors, l'idée, en effet, qui a émergé suite à cette préparation de l'exposition, c'est par exemple de former tous les bénévoles des associations à une formation de formateurs de langue pour les personnes migrantes.
Français, langue étrangère ?
Non, quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est encore une autre personne de l'association qui propose une méthode finlandaise. Donc, il ne nous en a pas dit beaucoup plus, mais très adaptée aux personnes migrantes.
D'accord, on ne va quand même pas parler en finnois pour arriver au français.
C'est la question que je me suis posée aussi. Mais voilà, donc, ce serait une formation collective. Donc, voilà, en effet, mutualisation des moyens pour payer le formateur, mutualisation de la salle d'occupation, et puis pourquoi pas mutualisation des animateurs.
Entre eux qui pourraient se déplacer.
Qui pourraient se déplacer. Tout ça est encore dans un statut embryonnaire, mais ça nous a mis dans cet élan et dans cette dynamique-là.
Dans un contexte compliqué, ne pas rester immobile, c'est aussi se donner de l'espoir, de l'envie.
Je me demande, Jean, si finalement le contexte compliqué ne nous permet pas de nous mettre en mouvement plus facilement que dans le confort. Après tout, quand on est dans le confort, bah, ça va. Mais quand c'est de la difficulté est là, bah, on avance, quoi.
Une réflexion que les radios associatives peuvent partager. Lou ?
Et concrètement, est-ce que vous vous réunissez ? Vous faites des réunions hebdomadaires entre associations ? Ou comment vous vous entre vous. Le mot est plus compliqué que la MAFPH.
Il faudra faire un peu de gymnastique avant de prendre l'antenne.
La gymnastique des doigts sur l'ordinateur. Alors, je vais encore dire non, parce qu'en fait, la seule fois où on s'est réunis, c'était pour l'Assemblée Générale qui s'est déroulée hier. Donc, oui, on n'est pas encore en travail commun, c'est certain. Chacun travaille dans son coin. Alors, peut-être que là, on parle du mouvement de le MAFPH, mais il y a aussi, ces associations sont aussi réunies dans une autre fédération de l'entraide protestante, la FEP, avec laquelle nous travaillons.
Ok,
vraiment
vous voyez
beaucoup plus
quand
régulièrement.
Même. Ouais.
Voilà, on se voit dans d'autres, pas sous le chapeau MAFPH, mais sous un chapeau FEP.
Okay. Enfin,
tout ça, ce sont des sigles.
Ah, la constellation des sigles, c'est quand même un peu impressionnant.
C'est terrible. Fédération d'entraide.
Quelques notes de musique, Lou ?
Oui, exactement, quelques notes de musique.
Thank you. maintenant.
Ah, on est à l'antenne.
Ah, de nouveau.
Toujours dans le 10h10.
Oui, avec Guylaine Dubois, pour parler de la MAFPH. Donc, dans la MAFPH, il y a de l'entraide. Et comment elle se manifeste? Qu'est-ce qu'elle est?
Alors, c'est vrai que la question de l'entraide, c'est une grande question à la fois d'église et de société sûrement, mais moi je dirais que je ferai une distinction entre l'entraide et l'aide. Dans l'entraide, il y a vraiment l'idée de travailler ensemble, en solidarité, pour accompagner, aider des personnes, mais qui doivent aussi s'aider elles-mêmes. Je milite vraiment pour que ce soit pas juste tiens, je te donne des sous et puis voilà, on se voit plus.
Ça, c'est la charité?
Peut-être, ouais. Moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment aider les gens si eux-mêmes ne s'investissent pas dans leur propre chemin, dans leur propre démarche personnelle. Donc la question de l'entraide, c'est vraiment entraider. S'entraider. Ensuite, chacune des associations travaille vraiment d'une façon, avec des orientations complètement différentes. Par exemple, on a cité la Concorde, qui est une des associations qui fait partie du mouvement. À l'Assemblée Générale, ils ont vraiment évoqué que c'est quasiment des aides pour les personnes âgées. Un couple qui va pas bien, des migrants qui ont besoin d'apprendre la langue. C'est vraiment très
personnalisé.
Personnalisé, voilà, très personnalisé. Peut-être que, en revanche, l'entraide telle qu'elle se manifeste à Montpellier, c'est plutôt avec leur action de Babel Café ou de Panier Babel. Mmh. C'est une action beaucoup plus collective. On accueille les gens, on leur fait un petit déjeuner, on échange. Je crois qu'il y a 300 personnes qui viennent le dimanche matin pour partager un petit déjeuner. Toutes ces personnes sont dans la salle et avec les bénévoles qui se sont levés à 5h du matin pour faire les sandwichs. Donc chacun, en fin de compte, l'ajuste cette entraide à sa propre...
Ça tient aussi à son territoire. On peut imaginer que dans un milieu un peu plus rural, c'est plus de l'individuel et qu'en ville, on peut rassembler plus facilement les gens.
Exact. Oui, je pense que ça doit compter. En effet, les interactions entre les... Et puis les compétences aussi des personnes qui sont présentes dans les associations, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau des bénévoles. Par exemple, à Sète, il y a une personne qui fait de la céramique, donc qui accueille des personnes qui...
Dans son atelier
et qui montre comment faire et des personnes repartent avec un objet ou laissent l'objet pour la kermesse de l'église, enfin... Donc voilà, il y a plusieurs façons de décliner cette entraide. Au niveau national, par exemple, la FEP, la Fédération de l'entraide protestante, a beaucoup travaillé sur une action sur les migrants avec une opération qu'ils ont appelée les couloirs de l'humanitaire, c'est-à-dire toute une structure administrative pour protéger ces migrants et les faire en sorte que leur arrivée soit la meilleure possible et dans les meilleures conditions pour tout le monde. Donc voilà. Ça se décline d'une façon différente, oui, en fonction des territoires et des compétences, de la gouvernance et des bénévoles.
Je reviens un peu là-dessus, sur le parallèle avec peut-être d'autres associations qui ne sont pas forcément du monde protestant. Je pense à ATD Carmonde, qui elle aussi associe énormément les personnes aux travaux. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas descendant, c'est vraiment essayer de faire monter en parole les personnes qui sont, un peu sur les marges. Vous situez un peu dans le même état d'esprit.
Oui, absolument.
Et alors justement, pour suivre, c'est... Voilà, vous êtes de la famille protestante, du monde protestant, il y a beaucoup d'associations, il y en a d'autres qui sont d'autres religions, et puis il y a aussi toute la famille laïque. Donc comment vous travaillez aussi avec eux?
Alors, ce travail se fait principalement au niveau là de l'Union départementale des associations familiales protestantes. Là, on retrouve en effet des associations laïques, AFL je crois, des associations de parents de même sexe, des associations de parents endeuillés, par exemple, des associations de parents handicapés ou de familles handicapées. Donc, c'est vraiment la notion de famille qui nous réunit là, quelles que soient
les sensibilités.
Et voilà, exactement. Et c'est aussi un message que je fais passer un petit peu, enfin, que je tente de faire passer dans ce mouvement protestants, pour qui la notion d'entraide, elle est plutôt liée à la diaconie de l'Église. Donc, il y a une
c'est
pensée...
C'est quoi la diaconie de l'Église? Là, pour le coup,
le vocabulaire.
Les laïcs que nous sommes sans doute avec Lou...
Nous sommes tous des laïcs. Hein.
Mais j'allais dire même... Alors, peut-être des agnostiques.
D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bon pour les protestants d'être dans une association telle que l'UDAF, dans une organisation telle que l'UDAF, parce que à mon sens, ça montre que les protestants ont une part de la vie citoyenne, de la vie nationale, de la vie publique. La diaconie, parfois, renfermerait trop la notion d'entraide dans un micro-monde religieux. Or non, je vous rejoins, Jean, quand vous dites « ça rejoint un TDK monde ». Oui, on n'a pas besoin d'être dans une église pour faire de l'entraide. Je suis entièrement d'accord avec ça, bien au contraire même. Et l'UDAF témoigne pour moi de ça.
C'est l'assemblée commune, à toutes les sensibilités philosophiques, religieuses.
Exactement.
D'accord.
Et je crois que c'est encore un message à faire passer au sein de certaines associations protestantes. En tout cas, je crois. Je crois, de mon point de vue. Ah, ce serait peut-être à discuter, mais bon, une autre fois.
Un protestant, un avis, dit protestant, dit avis, non? C'est pas ça qu'on dit.
Ah, ouais, c'est pareil.
Et vous, en tant que présidente, quel est votre rôle? Comment vous faites pour gérer tout ça?
Ouais, bah, comme on peut. Mais oui, l'idée, c'est d'apporter... Enfin, je pense qu'un président, c'est son rôle. Pour moi, un président, c'est d'apporter une dynamique. Et de faire ce que vous demandiez tout à l'heure, hein, de faire que les gens travaillent ensemble, qu'il y ait des projets montés, qu'il y ait des relations établies. Oui, c'est ça. Alors, je pourrais venir en parler de l'année prochaine. On sera peut-être plus actifs
des projets,
que cette année.
Des bilans de projets.
Des bilans de projets, oui, je l'espère. Ouais, ouais. Oui, la présidence, c'est ça. C'est vraiment, je crois que c'était Mitterrand qui disait un président ne fait rien, il fait travailler les autres. Bon, Mitterrand était bien placé.
Bah, c'est un chef, il fait ça en principe.
Il fait ça.
Il est là pour cheffer, comme on dit.
Et c'est ça. Et je crois, blague à part, que c'est très important de créer ce mouvement-là, cette ambition-là de travailler ensemble.
Et vous avez parlé des projets futurs. Vous en avez actuellement
Pour l'instant, petit projet pour la formation des bénévoles, comme je disais. Et puis, c'est déjà un gros projet. Je ne sais pas si on arrivera à le mener. Mais nous allons faire un bilan à la fin de cette exposition de l'UDAF qui a lieu au Carousel. Et on verra bien. On verra bien.
Moi, je reviens sur l'originalité des territoires. Là. On a Montpellier, donc c'est une grande ville, la 7e de France, Sète, qui a aussi son originalité. Les deux associations liées plutôt à des églises, si j'ai bien compris,
oui.
et Pézenas. Vous pouvez les caractériser un peu? Enfin, qu'est-ce qui fait les différences? On a vu que c'était peut-être plus facile de faire du collectif à Montpellier et de l'inter-individuel ou à Pézenas, mais bon... Est-ce qu'il y a des originalités? Parce qu'on dit souvent en Sète l'île singulière, donc on a toujours l'impression que c'est particulier à Sète, c'est pas comme à Montpellier en tout cas.
Oui, c'est pas comme à Montpellier. Après, je sais pas très bien comment répondre à cette question. Je crois qu'on se connaît pas encore suffisamment. Vraiment, encore une fois, cette exposition initiée par Jean-Luc Nègre nous a mis sur un chemin de pour mieux se connaître. Et parce qu'on avait vraiment besoin de ça. On a encore tout à faire.
On se rend compte, là, en vous écoutant, bon, Jean-Luc Nègre, c'est l'ancien DG, directeur général de GAM, qui est la grosse association qu'on recevra d'ailleurs demain. Il y a vraiment sur Montpellier, encore une fois, c'est le naïf et le néo-montpelliérain que je reste, malgré de nombreuses années à Montpellier, il y a quand même une atmosphère particulière et protestante à Montpellier.
Mmh. Oui. Oui, tout à fait. Peut-être, en effet, si on parle de cet angle-là, à Sète, la présence protestante qui fut forte il y a quelques années, même peut-être plus que quelques années, 50 ans, je dirais, est beaucoup moins forte qu'à Montpellier. On a une place à... j'allais dire à conquérir. Oui, à se faire reconnaître dans la cité.
Voilà. Là, après, on part quasiment dans l'histoire. Pour moi, 7, c'est pendant aussi très longtemps le port, les dockers, la CGT, le Parti communiste.
Ah oui, oulala, bon, voilà, ça a bien
donc,
changé. Hein.
Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins ça. Et peut-être qu'avant, il y avait un monde protestant actif, c'est ça que vous dites ?
Très, très actif. Quand on regarde les présidents des différents conseils presbytéraux, les personnes qui donatrices de l'Église, il y avait parmi elles des responsables de la Chambre de commerce maritime, de certaines banques. Il y avait vraiment une présence, on va dire, de...
Pas institutionnelle, mais enfin, en tout cas, des gens qui étaient inscrits dans l'institution. Ouais.
Voilà, influente. Aujourd'hui, ce monde-là n'est plus là. Les enfants ont dû partir, probablement travailler ailleurs. Enfin, je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais je le constate. C'est regrettable parce que...
Et alors sur Pézenas, il y a Bobby Lapointe, c'est sûr, mais il n'y a pas que Bobby Lapointe. C'est quoi le protestantisme, genre, je sais plus comment on dit, pissénois.
Voilà, ça doit être le terme. Pissénois, ouais. Écoutez, je vais le découvrir.
Bon.
Ouais.
On part pour une deuxième pause musicale.
Allez, c'est toujours la même compositrice.
Super. Sur ce 10-10 avec Guylaine Dubois pour la MAFPH. Jean, est-ce que tu veux poser une petite question peut-être ?
Petite question, je ne sais pas.
Grosse question, parce qu'on en a parlé en off.
Ouvrir un autre champ, donc l'entraide, c'est l'entraide, oui. Mais l'entraide, c'est l'entraide entre soi, c'est l'entraide avec d'autres. Et c'est quoi dans un monde qui est quand même un peu anxiogène, à la fois parce que le contexte géopolitique ne s'y prête pas, et puis aussi parce que, après le Covid, on a quand même eu le sentiment qu'il y avait des ruptures, et que notamment, moi je suis toujours frappé par les jeunes, la génération de loups, là, qui n'ont pas du tout le même rapport au monde que celui que les gens un peu plus âgés comme nous, Guylaine, pouvaient avoir.
Tout à fait. Oui, je crois que... Alors, on peut rentrer dans beaucoup de considérations à partir de ça. D'abord, on dit souvent que les associations remplissent le rôle de l'État, souvent. On va dire que oui, ce travail que vous faites pour les migrants, pour l'apprentissage des langues, etc., devrait être dévolu finalement à l'État.
Mais l'État ne peut pas tout faire.
L'État ne peut pas tout faire et les associations sont là aussi et remplissent cette mission. Ensuite, il y a certainement du travail à faire et la FEP s'est un peu penchée sur le dialogue interreligieux. Il est évident que, pour reprendre l'exemple de l'association d'entraide à 7, la majorité des personnes que nous accueillons, à qui nous donnons des cartes alimentaires, sont des personnes qui sont pas forcément de culture chrétienne, qui sont parfois issues de cultures musulmanes et qui sont aussi en demande de comprendre comment fonctionne la société, les différents rites. Et d'un autre côté, la fédération, lorsque nous intervenons dans des lieux publics comme dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, on a aussi affaire à une ignorance de notre part sur les pratiques religieuses des personnes que l'on va visiter. Donc, il y a là une forme de dialogue qui serait bénéfique pour chacun.
Mais est-ce qu'il n'est pas naturellement bienveillant parce qu'on est dans du vis-à-vis et qu'on sent bien que les tensions interreligieuses, c'est quand même lié à des rapports de force, à des blocs, à la référence à des situations politiques extérieures. Là, quand on est face à quelqu'un, on est face à quelqu'un, c'est
tout
une humanité,
fait.
Non ?
Tout à fait, mais on sait bien que les bonnes intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc rien ne vaut une meilleure connaissance de l'autre avant de pouvoir intervenir
interagir
avec lui. Donc voilà, ou même, par exemple, il y a aussi beaucoup d'actions envers les personnes qui sont dans la rue. Donc comment est-ce qu'on interagit encore une fois avec ces personnes démunies, dont on ne connaît pas forcément la culture ou le rapport à l'autre. Donc il y a tout un aspect qui, je crois, pour lequel les associations ont à travailler, parce qu'on est, comme vous dites, dans la proximité. Les maraudes, par exemple, sont des actions de ces associations que j'ai citées. Et elles sont souvent face à des personnes tellement isolées qu'elles se replient sur ce qu'elles connaissent et n'ont pas l'ouverture. Donc, à nous, associations, de provoquer cette ouverture.
Alors comment on peut
et par connaissance de l'autre.
Et alors, on voit bien l'entraide de l'association envers les personnes, on va dire, je parle à la rue parce que je crois que c'est un bon exemple, le tout un chacun qui à Montpellier, on ne peut pas progresser dans la ville sans croiser ce qu'on appelle un SDF, un punk à chien. Voilà. Et il y a un sentiment de peur, enfin, en tout cas d'étrangeté.
Oui.
Comment une association d'entraide peut à la fois agir avec ces personnes-là, mais aussi avec le grand public, parce qu'à un moment donné, on est tous dans le même bateau et il faudrait qu'on arrive à dépasser parfois un peu ces sensations de repli ou d'indifférence. Pas facile, ça.
Oui, c'est pas facile. Et je crois que les associations, comme vous dites, ont ce rôle à jouer de médiateur. Quand dans vos gestes, vous dites d'un côté le grand public, au milieu la personne dans la rue et l'association. Eh bien, si le grand public, en effet, rejoint l'associatif, dans sa connaissance, son expertise, on va dire, de ce milieu, eh bien, on a tous à y gagner, y compris la personne qui reçoit, que la personne qui donne. Et parfois même, on ne sait pas qui donne et qui reçoit.
Oui, et puis les personnes à la rue sont des personnes comme les autres. Hein,
mais oui, exactement.
Oui, mais ça, on l'oublie un peu parce que, effectivement, le physique, ça fait peur.
Ouais.
Il y a ce sentiment d'insécurité qui est un peu présent partout.
Oui, tout à fait. Oui. Peut-être j'en profiterai pour revenir sur le choix de la compositrice que j'ai fait
oui,
tout à
l'heure.
Oui, le
choix musical.
elle s'appelle Feather Ray et son premier titre c'était Keep the Streets Empty for Me. C'est une compositrice suédoise et quand on regarde son clip Keep the Streets Empty for Me, elle parle vraiment de cette façon de vivre d'une façon solitaire, d'une façon isolée, et en même temps la personne qui voit ce qui se passe autour d'elle. Donc elle donne vraiment accès à cette ambiance-là. Et le deuxième morceau que vous avez passé, Lou, et je vous en remercie, c'est toujours Fever Ray. Et là, elle parle de cette notion de « on en veut toujours plus ». toujours plus. Et je dis
société
ça.
Société de consommation.
Société de consommation. Voilà. Et c'est une compositrice qui est née en 1975 et qui dit que finalement, elle parle de ça, de cette notion de toujours en vouloir plus. Je vois dans votre regard que vous vous dites c'était une notion d'avant.
Ben non, je vais dire c'est pas une boomer, parce que les boomers, ça doit s'arrêter vers 65. Oui. C'est la génération après, donc après. Je ne sais jamais quel nom on lui donne, mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui est né dans une société qui est encore une société d'abondance. C'était après le premier choc pétrolier. Excusez-moi de faire un peu de...
Là, tu étais en mode d'histoire.
Mais bon, il y avait l'insouciance. C'était avant le sida. C'était un contexte différent.
Oui, et pourtant elle parle de ça. Le titre de sa chanson, « If I had a heart », « Si j'avais un cœur », qui exprime justement ce sentiment de n'être jamais rassasié. Pour cette personne-là, c'est encore d'actualité, manifestement. Et là encore, elle s'adresse aux personnes de la rue, dans cette atmosphère, si vous l'avez écoutée, électronique, voilà.
On voit Stéphane, notre programmateur musical, qui réagit. Il connaît bien toutes ces périodes. On se dit quelques mots pour conclure. Là, on est quasiment à la fin. Donc,
il nous reste quelques...
Moins de 3 minutes.
2 minutes. Est-ce que vous avez quelque chose que un vous message. Aimeriez rajouter
un message.
Eh bien, allez voir l'exposition au Carrousel, bien ça, évidemment.
Oui, bien eh bien oui, rapprochez-vous de ces associations d'entraide, qu'elles soient protestantes ou non protestantes, parce qu'on y apprend beaucoup. On y apprend beaucoup, on reçoit beaucoup et oui, on a ce rôle à jouer dans la cité, je crois. Mm-hmm. Mais vraiment, c'est presque un rôle politique, finalement.
Il y a quelque chose d'humain.
Merci Guylaine.
Ben merci Jean,
merci
Guylaine, et puis merci Aurélien à la technique. Et puis demain, on se retrouve pour un nouveau 10-10 avec GAM.
Voilà, et comme toute la semaine, on parle des 80 ans, de l'UDAV, de la sécurité sociale et de tout ce monde qui s'entraide.
Merci.